On continue notre série sur les disciplines spirituelles pour la piété dans la vie chrétienne. On va regarder ce soir la poursuite de la connaissance. Autrement dit, on va regarder trois idées. La connaissance spirituelle et biblique, quelle est sa source? La deuxième idée, on va regarder la connaissance spirituelle et biblique, sa nécessité. Et la troisième, on va regarder sa conquête, comment on y arrive. Alors, bien entendu, ce qu'on doit préciser, quand on parle de connaissance, ici, quand on parle de poursuite de la connaissance, je ne suis pas en train de dire qu'on se doit de poursuivre quelques sciences humaines, que ce soit humaines ou les sciences des hommes. Là. On parle de la science biblique, de la connaissance biblique. Alors, bien entendu, on parle de connaissance spirituelle et biblique. Donc, autrement dit, les connaissances qu'on peut acquérir sur la personne de Dieu, lui-même, sur la Bible, sur Jésus-Christ, sur le Saint-Esprit, sur le péché, sur le salut, sur les anges, sur l'Église, sur les choses de la fin, comme le jugement d'enfer. Quand on avait eu notre assemblée générale, on m'a donné une copie d'un livre sur Dieu, fait par un réformé baptiste. Il y en a trois de sorties. Il y a celui sur Christ qui est sorti, celui sur Dieu qui est sorti, et celui sur l'homme. Mais bientôt, dans peut-être un an ou deux, on devra avoir la série complète. C'est d'une richesse. L'homme a étudié la Bible d'une façon extraordinaire pendant 35-40 ans. Il a enseigné dans des écoles bibliques. Et c'est tout le fruit de son travail, de ses recherches qu'il a mis là-dedans. C'est extrêmement riche. Quand on parle de la poursuite de la connaissance, on parle de ça. On parle de quand on arrive comme chrétien. Moi, j'étais ignorant, vraiment, non, un vrai ignorant, là, au point de vue de la foi, au point de vue des choses de la Bible. Bien sûr qu'au cours des années, j'ai acquis des connaissances, mais les connaissances, il y a deux façons de les acquérir. Il y a s'asseoir dans l'assemblée, comme vous l'êtes là, vous s'asseoir, vous recevez des choses, vous apprenez des choses, et il y a l'autre méthode qu'on appelle ici la poursuite de la connaissance. La poursuite, ça implique quelque chose de très actif. Autrement dit, tu n'apprendras pas, tu ne deviendras pas un bon connaissant de la Bible sans que tu fasses des efforts. Ça, oubliez ça, c'est un rêve, ça. Si quelqu'un vient à tous ses cultes du mercredi, puis tous ses cultes du dimanche, puis anciennement, c'était 3 cultes par semaine, ça, c'est une autre raison. Il faudrait regarder pourquoi, dans le cours de... Ça fait pas longtemps qu'il n'y a pas 3 cultes, là. Pourquoi je... Des fois, je n'ai déjà discuté avec Raymond Perron, une fois, juste parce que je disais à Raymond, pourquoi les gens ont enlevé le culte du dimanche soir? Ah, ben c'était pour des raisons familiales. Moi, je ne suis pas d'accord. Le jour du Seigneur, c'est supposé être un jour. Bien, c'est pour dire. Autrement dit, si il y avait 3 cultes avant... Puis là, maintenant, il n'y a rien que 2, ça veut dire qu'il y a moins d'enseignement sur l'ensemble. Mais si sur les 2 cultes que tu as, il y en a un qui n'y va pas, oups, ça vient de baisser de la moitié. Puis si en plus, chez vous, tu ne lis pas de livre sur la théologie, tu ne lis pas de livre sur le christianisme, tu ne lis pas de biographie, tu ne lis pas, autrement dit, puis c'est à peine si tu lis ta Bible... Ça, c'est de plus en plus répandu. Moi, je lis souvent les choses par rapport à ce qui se passe aux États-Unis. Apparemment que la chrétienté moderne, dans le grand mouvement de la chrétienté moderne américaine, ils appellent ça de l'ignorance là, de quasiment crasse. Autrement dit, il y a eu un basculement des cultes traditionnels où la parole était centrale, vers des genres de cultes où ça devient des spectacles, des shows. Et c'est sûr que le monde aime ça, la musique, tout ça, mais il reste que si tu bases tes cultes sur une longue période de temps, basée sur des choses semblables, et que la parole n'est plus centrale, dis-toi une chose, on va dire comme les disent les Anglais, « The church will go down the drain », comme ils disent. L'Église va s'affaiblir à un niveau tel que... Mais c'est ça qui s'en vient, là. Alors, je trouve que la leçon de la poursuite de la connaissance, elle a vraiment sa place dans les disciplines spirituelles, parce que c'est pas quelque chose qui arrive tout seul, la connaissance biblique. C'est quelque chose qui implique une décision, c'est quelque chose qui implique une réserve de ton temps, et c'est quelque chose qui nécessite de la discipline et de la persévérance sur le nombre d'années. On n'acquiert pas un baccalauréat en théologie ou une maîtrise en théologie sans avoir fait d'efforts. Prends par exemple juste un exemple que je connais. Là. Raymond Perron, il a un doctorat en théologie. Mais Raymond Perron, là, ça y est pas tombé comme ça. Là. Toute la connaissance qu'il a acquise, là, il l'a acquise parce que il y a de la sueur là-dedans. Là. Mais s'imaginer qu'on peut devenir un bon chrétien sans cette sueur-là, c'est de rêver en couleur. C'est de se faire des illusions. La Bible demande qu'on l'étudie. Et si on ne l'étudie pas, je vous dis une chose, on est faible. On est très faible. C'est peut-être la raison pour laquelle on voit tant de choses dans le monde chrétien moderne où il y a justement ce manque de connaissances-là, ce manque d'engagement. C'est ça le but de la leçon de ce soir, de prendre conscience qu'on ne grandira pas dans la foi si on ne fait pas d'efforts. Et c'est un fait qui est bien connu que notre théologie va modeler notre comportement. Qu'est-ce que je veux dire par ça? Autrement dit, tout à l'heure, on a dit que la connaissance spirituelle, c'est sur Dieu, c'est sur la Bible, c'est sur Jésus-Christ, c'est sur le Saint-Esprit, c'est sur l'homme, c'est sur le péché, etc., etc. Plus tu vas connaître ta Bible, plus tu vas connaître le Seigneur dans chacune de ces dimensions qui sont enseignées dans les Écritures, plus ton comportement dans la vie de tous les jours va être modifié en conséquence. Autrement dit, ça qu'on veut dire, c'est un fait bien connu que notre théologie va modeler ton comportement. Plus ta théologie va être élevée, plus elle va comprendre les choses de Dieu dans toutes ses dimensions, dans toutes ses facettes, avec toutes les doctrines que je vous ai parlé, plus... Je reviens là-dessus parce que moi, c'est quelque chose qui me frappe. Lire la Bible de façon systématique, c'est quelque chose qui s'est presque perdu. C'est quelque chose que pour certains, ça ne s'est même pas fait une fois. Même si ça fait 25 ans qu'ils sont sauvés, ou même dans certains cas, c'est encore plus longtemps que ça. J'ai vu des cas 30 ans. T'es sauvé depuis 30 ans, puis tu dis que ce livre qui est la Bible, c'est la parole de Dieu, puis tu ne l'as même pas lu une fois d'un couvert à l'autre. Quelque part, il y a quelque chose de fondamental qui n'est pas compris. Là. Fondamental. Alors, quelque part, si les gens qui sont des observateurs de la scène religieuse évangélique aux États-Unis, qui voient ce nivellement par le bas, là, les gens sont rendus d'une ignorance presque crasse sur les choses des Écritures, pour une raison bien simple, ils ne lisent plus. Fait que, man, toi, tu dis que c'est la parole de Dieu, mais c'est le fun de se gargariser avec des mots, hein. Oh, nous, si on est une église biblique, on est... Ouais, mais t'es une église biblique, c'est la parole de Dieu, t'as lis-tu? Combien de fois tu l'as lu cette année? Des fois, même pas une fois. Pas une fois dans un an, là. Une fois dans ta vie. Ça devrait nous parler. Moi, je trouve que ça devrait nous parler. Donc, c'est notre entière responsabilité que de prendre tous les moyens pour accroître notre connaissance et que celle-ci nous entraîne à une manière de vivre qui honore et qui glorifie le Seigneur. Si vous regardez, je vous mets au défi. Lisez n'importe quelle biographie de grands chrétiens ou de grandes chrétiennes, puis regardez leur connaissance des Écritures. Il y a toujours un lien direct entre la manière dont tu vas t'investir à lire les Écritures, à les étudier et à les intégrer et à les mettre en pratique avec le degré de connaissance que tu vas acquérir sur le Seigneur. Matthieu 22, versets 34 à 40. Les pharisiens, ayant appris qu'il avait fermé la bouche aux Sadducéens, s'assemblèrent. Et l'un d'eux, docteur de la loi, l'interrogea pour l'éprouver. Il lui dit, « Maître, quel est le grand commandement de la loi? » Jésus lui dit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est là le premier et le grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. » Moi, ce que je voulais retenir, surtout dans le texte, je l'ai souligné pour ceux qui ont les leçons, de toute ta pensée. Aimer le Seigneur de toute ta pensée, comment tu peux faire ça? Si c'est pas plongé dans les Écritures. Ta pensée, là, si tu veux qu'elle soit intégrée, imprégnée des choses de Dieu, puis que tu mettes les choses de Dieu que tu as appris en pratique, c'est ça, aimer de tout ton cœur, toute ta pensée. Alors, on va commencer par regarder le premier point, la connaissance spirituelle et biblique, sa source. Autrement dit, on prend ça où? La source. Dans la Bible, bien entendu. Le mot disciple a un sens double. Celui de suivre quelqu'un et celui d'apprenti. Autrement dit, quand on dit qu'on est des disciples de Jésus-Christ, c'est qu'on suit Jésus-Christ. Jésus-Christ marche en avant, puis nous, on marche en arrière, puis on le suit. Et ça a aussi le sens d'apprenti. Parce que les disciples, c'était des gens qui s'assoyaient auprès d'un maître. Le maître enseignait et les disciples y étaient disposés à s'asseoir et à écouter et à apprendre. C'était le rôle dans le temps des rabbins. Ils les appelaient maîtres. Parce qu'un maître, c'était quelqu'un qui enseignait quelque chose à quelqu'un. Alors, pour suivre Christ, nous devons nous engager sérieusement dans la discipline de la poursuite de la connaissance biblique. La Bible a été écrite spécifiquement pour nous instruire et pour nous donner de la sagesse. Proverbes chapitre 9, verset 9. Instruis un sage et il deviendra encore plus sage. Enseigne un homme de bien et il croîtra en science. Le chrétien sage entretient une attitude et une volonté constante d'apprendre. Les sages savent qu'ils ont encore beaucoup de choses à apprendre. Ce qui est remarquable, des fois, c'est les plus savants qui se rendent compte qu'il y aurait encore énormément de choses à apprendre. Quand tu vas prendre un gars qui a un doctorat, là, puis même il y a certains qui ont en théologie, ont des études post-doctorales. Puis si tu jases avec ces gars-là, puis bien souvent, là, ils se rendent compte, c'est sûr que si tu regardes ces gars-là, tu te dis, ben moi, comparativement à lui, j'arrive même pas à la cheville. Mm-hmm. Certains théologiens que j'admire, comme John Gill et John Owen, des gars de même, ont dit d'eux autres, c'est des théologiens de très, 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 très haut niveau. Moi, si je me compare à lui, je suis un deux de pique. Là. Je suis très conscient de ça. Mais il reste que la sagesse, elle va augmenter avec ta connaissance des Écritures. Puis Dieu n'a pas donné à tous la même capacité non plus d'apprendre. Moi, je ne me compare pas avec John Gill, parce que John Gill, il avait un intellect qui n'est pas celui de Marcel Longchamp. Il avait un intellect tellement... Hey, à 11 ans, il connaissait l'hébreu, le grec et le latin. À 11 ans. Après ça, il a appris le français, puis il a appris les langues orientales. La connaissance de ce bonhomme-là était inimaginable. C'était le grand leader de toute l'Angleterre. Il enseignait aux pasteurs de toute Londres. Prends la ville de Londres, une énorme ville. Il était le pasteur des pasteurs. Alors, quand un gars a atteint ce niveau-là, dis-toi une chose, il en connaît des choses. Alors, Proverbes chapitre 10, verset 14. « La sagesse se trouve sur les lèvres de l'homme sage, mais la verge est pour le dos de celui qui est dépourvu de sens. Les sages tiennent la science en réserve, mais la bouche de l'insensé est une ruine prochaine. » Proverbes 18, verset 15. « Le cœur de l'homme intelligent acquiert de la science et l'oreille des sages cherche la connaissance. » Dans le texte, j'ai souligné « cherche ». Quand on cherche en anglais, c'est « seek ».« To seek something », c'est Tu es toujours en train de vouloir apprendre. Chaque occasion qui t'est donnée d'apprendre, tu sautes dessus puis tu veux apprendre encore. Proverbe 23, verset 12. Applique ton cœur à l'instruction et tes oreilles aux paroles de la science. Moi, 2 Pierre, les premiers versets de 2 Pierre, j'aime beaucoup, beaucoup ce passage-là. Parce qu'il nous enseigne des principes fondamentaux sur notre vie chrétienne. Ça dit ainsi, y apportant tout votre zèle. Le mot, là, dans le grec, quand tu vas étudier ce passage-là, puis tu te le fais expliquer, là, c'est avoir le zèle que les athlètes ont pour atteindre leur prix. On le sait qu'il y en a qui ne jouent pas que le dos de la cuillère, comme on dit, pour atteindre un prix humain. Mais ici, il dit qu'on se devrait de chercher à progresser avec le même zèle que ces gars-là ont. Pierre, ici, il sait ce qu'il dit. Là. Il ne dit pas des choses, des paroles en l'air. C'est ce qu'il nous dit. Ainsi, y apportant tout votre zèle, ajoutez à votre foi la vertu. Et à la vertu, la science. Pourquoi j'ai souligné la science? Parce qu'ici, on parle pas de science, la physique, la chimie, l'astronomie et ces choses-là. Là. On parle de la science biblique. Alors, il dit d'ajouter à ta foi la vertu. Puis à la vertu, d'ajouter la science. Et à la science, la tempérance. Et à la tempérance, la patience. Et à la patience, la piété. Qu'est-ce qu'on est en train de faire, là? La leçon, les leçons. Là. C'est quoi le titre? Les disciplines spirituelles pour la piété. Tout ce qu'on a vu depuis 23 leçons, là, c'est toutes des choses pour nous aider à avancer dans la piété. Et à la piété, l'amour fraternel. Et à l'amour fraternel, la charité ou l'amour, c'est la même chose. Car si ces choses sont en vous, regardez bien, lisez attentivement. Car si c'est un conditionnel, si ces choses sont en vous et y abondent, abondent, ça veut dire qu'il y en a, hein, quand ça abonde, là, elles ne vous laisseront ni oisif. Oisif, ça veut dire quoi, quelqu'un qui est oisif? Quelqu'un qui ne fait rien. Quelqu'un qui est paresseux, il ne bouge pas, il ne fait rien. Ni oisif, ni stérile. Quand on parle d'une femme stérile, c'est comme... Elle n'aura pas d'enfant, vraiment. Elle est stérile, elle n'aura pas. Mais ça nous dit que si on fait les choses qui viennent de nous nommer, ça ne nous laissera pas ni oisif ni stérile dans la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Colossiens chapitre 2, versets 2 et 3. « Afin que leur cœur soit consolé et lié étroitement ensemble dans la charité, pour être enrichi d'une parfaite intelligence, pour connaître le mystère de Dieu le Père et de Christ, en qui sont renfermés tous les trésors de la sagesse et de la science. » Autrement dit, si vous voulez agrandir votre connaissance, la science dont on parle, là, ça nous dit que c'est en Jésus-Christ qu'on trouve cette science-là. C'est ça que ça dit. Là. En qui, pour connaître le mystère de Dieu le Père et de Christ, en qui sont renfermés. Quand on parle de trésors, là, c'est des richesses énormes. En qui sont renfermés tous les trésors de la sagesse et de la science. La véritable connaissance de Dieu n'est pas seulement intellectuelle. Elle est une expérience intime, une communion spirituelle, un contact établi avec le Seigneur et maintenu dans l'obéissance et la fidélité. C'est pourquoi la connaissance et la crainte de Dieu vont constamment de pair. La connaissance et la crainte de Dieu, ça va ensemble. Proverbe 2, versets 1 à 6. Ça, c'est un passage, j'ai déjà prêché sur ce passage-là, je me souviens, j'étais à Québec, j'ai prêché là-dessus. Je l'ai refait à Montréal. Pourquoi je l'ai refait? Parce que c'est un passage qui nous enseigne des choses intéressantes. Ici, ça dit, « Mon fils, si tu reçois mes paroles, et si tu conserves avec toi mes commandements, tellement que tu rendes ton oreille attentive à la sagesse, et que tu inclines ton cœur à l'intelligence, Remarquez le nombre de si qu'il y a dans ce passage-là. Si tu appelles à toi la prudence, et si tu adresses ta voix à l'intelligence, si tu la cherches comme de l'argent, et si tu la recherches soigneusement comme un trésor, regardez bien ça c'est la conclusion. Autrement dit, après toutes les si qu'il vient de dire, là, il dit qu'est-ce qui va arriver si tu fais ce qu'il vient de dire. Alors, tu comprendras la crainte de l'Éternel et tu trouveras la connaissance de Dieu. Car l'Éternel donne la sagesse, de sa bouche procède la connaissance et l'intelligence. Donc, la poursuite de la connaissance spirituelle et biblique est le travail de toute une vie. Moi, ça fait 40 ans que je suis chrétien. Je pense que j'ai eu un flot dans la direction de toujours vouloir apprendre. J'apprends encore. Il n'y a pas une journée que je n'apprends pas quelque chose de nouveau. Pourtant, on se rapportait à dire, ben là, j'en sais pas mal, j'en sais assez. Ben non, on n'en sait pas assez parce que tu es loin de savoir tout ce que tu aurais à savoir. Parce que t'as un gros contrat, comme on dit. Mais ça ne s'acquiert pas tout seul. C'est le travail de toute une vie, mais ça nécessite des efforts. Et ça nécessite de la persévérance. Quand je disais tantôt, c'est une décision que tu prends un jour. C'est une décision que tu te réserves une plage de temps dans ton horaire et que tu persévères à la garder et à être actif dans cette plage de temps-là, à poursuivre quelque chose, à poursuivre, de t'en aller dans une direction pour apprendre davantage. Et aujourd'hui, là, mes amis, c'est pas les outils qui manquent pour agrandir dans la foi. Il y en a une tonne. Puis si vous avez besoin d'aide, je vais vous en donner des titres, je vais vous en donner des... Et moi, je dis, aujourd'hui, je suis porté à dire ça, lis plus n'importe quoi. Lis la crème de la crème. Le meilleur des meilleurs. Tout à l'heure, je vous parlais de Greg Nicholls avec ses livres de théologie. Mais si tu veux apprendre quelque chose sur Christ... Prends Nichols, passe à travers, puis quand tu vas faire l'histoire, tu vas en savoir pas mal plus long que tu en savais au début. J'en suis convaincu. Il a fait ça, lui, non seulement pour le Christ, il l'a fait pour Dieu le Père, il l'a fait pour le Saint-Esprit, il va le faire pour le péché, il va le faire pour l'homme, etc., etc. Imaginez-vous quelqu'un qui prend ces 7 volumes-là, c'est pas quand même si gros que ça, là. Si tu y vas petit morceau par petit morceau, tu vas devenir... Tu sais, quand on dit que tu ne seras plus ballotté à tout vent de doctrine, qu'est-ce qui arrive aux chrétiens modernes? À cause du fait qu'ils ne sont pas fondés, ils sont comme des girouettes. Dès qu'un vent les pousse un petit peu sur eux, ils sont étourdis, ils ne savent plus quelle base en aller. Mais si tu es bien fondé, c'est pas un petit témoin de Jéhovah qui va t'énerver, là. Parce que tu es capable de défendre ton point de vue, tu es capable d'aller dans les Écritures, tu es capable de discuter avec, tu es capable de le confondre même. Mais si ça te prend un degré de connaissance que... Alors, c'est vraiment le travail de toute une vie et ça nécessite des efforts et de la persévérance. C'est de rêver en couleur de penser qu'on peut devenir savant dans les Écritures sans mettre du temps et des efforts. Et de l'argent! Parce que des livres, là... Au prix qu'ils sont vendus. Bien, américain, ça ne coûte pas très cher. Mais en français, ça coûte assez cher. Alors, il faut... C'est drôle, des fois, on est généreux pour aller au restaurant. On est généreux pour s'acheter une bouteille de vin. On est généreux pour toutes sortes d'affaires. Mais s'acheter un livre coûte 25$. Oh, oui, mais là... Souvent, c'est ça, là. Alors, Samuel Hopkins... C'est une personne qui écrit la biographie du célèbre pasteur et théologien américain Jonathan Edwards, dont on dit de lui, il y a de plus en plus, ça fait plusieurs fois que je lis ça, je ne sais pas combien de fois je l'ai lu, que Jonathan Edwards serait le plus grand théologien anglophone de tous les temps. T'as pas un deux pites, là. T'as un homme qui s'intéressait aux choses de Dieu. Il raconte que lorsqu'il a rencontré Edwards, il a été fortement impressionné par le fait que cet homme avait encore une soif d'apprendre après plus de 20 ans de ministère. Autrement dit, quand il l'a rencontré, ça faisait 20 ans qu'il était dans le ministère. Puis il dit, ce qui m'a impressionné le plus chez lui, c'est qu'il avait une soif d'apprendre quasiment, tu sais, il ne faut pas la satisfaire. Ça va que ça m'a pensé, une fois, j'étais à Québec, puis on avait été voir un pasteur américain qui était venu à Montréal. Parce que je le connaissais, il avait écrit un livre, puis je me suis dit, j'ai une chance d'aller le rencontrer, je vais aller le rencontrer. Quand tu dis, là, ça fait 35 ans, 40 ans qu'un gars est dans le ministère, là, puis qu'il prêche, là, puis qu'il y a encore la flamme de Christ, tu le sens, là, qu'il y a une flamme, l'amour du Seigneur, tu le sens dans sa vie, là. Ben, vous autres, ça vous impressionne pas, moi, ça m'impressionne. Parce que, avec le temps, souvent, notre flamme de notre premier amour, comme les Écritures disent, diminue, c'est des fois, dans certains cas, s'éteint presque. C'était pas son cas. J'ai jamais regretté d'avoir été là. J'ai fait un voyage spécial de Québec à Montréal juste pour aller voir. Je l'ai pas regretté. Après, je suis allé le voir. Je lui ai dit, monsieur, il faut que je vous dise quelque chose. Il dit, je trouve ça tellement beau de voir qu'un chrétien, après tant d'années, on dirait que vous venez juste d'être sauvé depuis 5 minutes. Il était enflammé encore. Moi, je trouve ça extraordinairement le fun. Mais dis-toi une chose, ce gars-là, il doit être proche du Seigneur, il doit étudier les Écritures, il doit... Tout ça tient, hein? Donc, après 20 ans de ministère, il avait été impressionné par le fait qu'il lisait avidement tous les livres de théologie sur lesquels il pouvait mettre la main. Y a-t-il qui ont déjà été chez Raymond Perron? Vous avez vu sa bibliothèque, des livres de théologie? Il doit en avoir avant 50. Puis lui, ils appellent « Mes chers livres de théologie ». Je trouve ça le fun d'entendre un homme après que... Enfin, Raymond, je pense qu'il est encore plus vieux dans le Seigneur comme moi. D'entendre ça dire « Mes chers livres de théologie ». Pourquoi il dit « Mes chers livres de théologie » ? Parce que ça parle de Dieu, ça parle du péché, ça parle de toutes les choses qui sont spirituelles. Et il est encore enflammé pour ça. Il n'a pas lu rien qu'un, il a lu plusieurs. Mais c'est ça la poursuite de Dieu, c'est qu'à un moment donné, tu donnes la peine de vouloir grandir dans ta connaissance. Alors, il lisait avidement tous les livres de théologie sur lesquels il pouvait mettre la main. Edwards est considéré par beaucoup d'érudits modernes. Alors, c'est ceux qui disent ça, ce n'est pas des gens qui n'ont pas de connaissance. Les érudits, les Anglais appellent ça des scholars, des gens qui ont une très haute connaissance en théologie. Ben eux, là, quand ils étudient tout ce que Edwards a écrit, ils le considèrent comme un des plus grands théologiens de tous les temps anglophones. Mais il ne s'est pas construit tout seul. Il s'est construit parce que ça l'intéressait, et parce qu'il a mis du temps là-dedans, et lui, il a mis... En tout cas, sa connaissance énorme produisait des fruits. Si jamais vous avez une petite chance de lire sur Jonathan Edwards, c'est un homme que... c'est pas un chrétien ordinaire. Quand vous lisez sa biographie, vous allez vous rendre compte que c'est un homme qui était rempli de fruits. Et il y en a qui ont fait des études sur sa descendance. Parce qu'il y a des versets des Écritures qui nous disent que la descendance d'un chrétien zélé, un chrétien qui aime le Seigneur, va se répercuter chez ses enfants. Ils ont fait des études, puis ses enfants sont devenus des chrétiens pleins de zèle, comme lui. Ça s'est répercuté sur ses enfants. Donc, on va arrêter là pour le moment. On continuera la semaine prochaine sur le même sujet.